Vous êtes sur la zone payante et c'est maintenant l'heure de répondre aux questions des auditeurs. Et là, j'avoue que cette semaine, on va y aller rondement parce qu'on a plusieurs questions. On va commencer par celle de Matt Pinault qui nous écrit et qui nous parle de Zach Wilson, sans doute comme Arnaud, un partisan des Jets. On en a parlé un peu tout à l'heure, Steph, mais est-ce que Zach Wilson a perdu le respect de ses coéquipiers avec sa déclaration? Et est-ce le début de la fin pour lui? Là, on sait qu'il n'a pas pris le blâme pour la défaite en disant que la défensive, elle n'avait rien à lui en vouloir autre mesure.
Ouais, puis il se serait suffi d'une toute petite déclaration. Pas obligé de se fouetter là, puis de sortir les outils d'automutilation. Il s'agit juste de dire « Ouais, j'ai pas connu un grand match. Je pense que je pourrais faire mieux, puis notre défense mérite un meilleur sort. » Ça aurait été bien correct. Mais il a même pas pris la peine de faire ça. Puis je veux juste amener un comparatif avec deux autres corps arrière hockey en fin de semaine. Justin Fields avec les Bears s'est excusé lui auprès de sa défense. Il a dit « Vous avez connu un bon match. J'aurais dû en faire plus. » Bon, c'est ça. Ça a été comme apprécié comme marque de leadership, semble-t-il, dans le vestiaire des Bears. Lamar Jackson, lui, il a gagné contre les Panthers, mais il s'estime responsable d'une blessure qu'a subi son bloqueur à gauche, Ronnie Stanley. Il dit « C'est de ma faute, j'ai pris un sac, j'ai roulé dans ses jambes, je m'en veux pour ça. » C'est pas nécessairement des gars qui devraient s'en vouloir à ce point-là, ces deux-là, mais ils en mangent une pour l'équipe, ils assument leur rôle. Ce que Zach Wilson n'a pas fait. Fait que pour répondre rapidement, moi, je pense qu'il a perdu le respect de ses coéquipiers. Ça va être très difficile pour Robert Saleh de justifier qu'il conserve son poste de partant. Un développement à suivre dans les prochains jours.
Jessica, une partisane des 49ers, sans doute, et du beau Jimmy G. Est-ce que les 49ers regrettent de l'avoir signé seulement pour un an? Jimmy G qui va bien et qui sera agent libre à la fin de la saison?
Hey, je pensais pas voir cette question-là, mais c'est super pertinent. Je dis pas ça en dérision, là. C'est que Jimmy G, c'est un peu le mal-aimé depuis des années. Puis là, tout à coup, on se demande, est-ce qu'on aurait dû le signer plus longtemps? C'est drôle comment la vie tourne rapidement des fois dans la NFL. Les Niners, la réponse, c'est qu'ils ont Trey Lance là, qui attend. Cette année, il s'est blessé, une grosse malchance. À un moment donné, il va falloir là, qu'il aille avec lui. Je comprends que Jimmy G joue bien en ce moment. La question pour moi va se poser si les Niners partent sur une grosse run de lait puis qu'ils s'en vont même remporter le Super Bowl avec Jimmy. Écoute, là, ils n'auront pas le choix de se demander, là, coudon, est-ce que ce serait pas lui, notre présent et notre avenir? Là?
Et là, s'ils attendent juste au Super Bowl pour se poser cette question-là, une fois gagné...
Il va être tard, c'est ça le problème. Mais c'est parce qu'en ce moment, ils connaissent le plafond de Jimmy Garoppolo. T'sais, c'est pas un nouveau corps arrière en ce moment. Là. Il n'a pas changé. Il a toujours connu des bons moments, Jimmy Garoppolo. C'est que par certains autres moments, il a été beaucoup moins performant, il a été limité. Et les Niners étaient un petit peu tannés aussi de l'incertitude concernant sa fragilité. Cette année, ça va bien de ce côté-là, il est durable, mais il y a eu des problèmes dans le passé. Donc, les réponses à son sujet, les Niners les ont. C'est un gars qui peut les amener loin, mais quand même, il y a certaines limites. Donc, je pense pas nécessairement qu'il faut y aller dans l'avenue à long terme.
Mais c'est plate. Imagine s'il l'avait signé quand même 2 ans ou 3 ans, il y aurait peut-être un petit peu d'options. Là, ils vont le perdre.
Mais c'est lui qui voulait pas. C'est lui qui voulait pas non plus. Il voulait pas être enchaîné à l'équipe, sachant que Trey Lance est dans le décor. Donc, il a fait exiger une clause là, comme quoi il peut pas être tagué, puis il va être agent libre à la fin de la saison. Donc, c'était un mariage de raison cette année.
Imagine dans 20 ans, quelqu'un qui regarde la fiche de Jimmy G, puis il dit 50 victoires. Parce que je pense qu'il y a 48 victoires, 20 défaites. Il est à la 3 Super Bowl, il en a gagné 2. Tu te dis wow, tout un joueur quand même. Mais des fois, l'histoire dit pas tout. Pierre-Luc Roussovski nous pose la question. Pourquoi les Saints ne donnent pas les clés de l'attaque à Jameis Winston? Et ce n'est pas comme si Andy Dalton leur donnait une chance de gagner à chaque match.
Ben, moi, la réponse simple, c'est que je suis entièrement d'accord avec cette affirmation-là. Pour moi, c'est incompréhensible. Jameis Winston, il t'offre au moins un certain potentiel explosif. Tu sais, Andy Dalton, là, tout le monde, il a bien joué la semaine passée, ouais. Ça faisait quelques semaines qu'il se passait pas grand-chose non plus, là. Donc, faut pas se baser sur un match. Pour moi, Dalton, à ce stade-ci de sa carrière, c'est un bon réserviste, un joueur qui peut t'amener quelques matchs de qualité, ni plus ni moins. Tu sais, j'irai pas plus loin que ça avec lui.
Maxime Denis, pourquoi les Rams coupent Anderson? C'est pour aller chercher Gordon? Et l'avenir de Wilson avec les Jets finit bientôt. Maxime Denis qui nous pose la question. C'est vrai qu'on a répondu un peu pour Zach Wilson, mais
ouais.
C'est vrai qu'on dirait que les Rams, c'est pas clair ce qu'ils veulent faire avec leur champ arrière. C'est comme s'il y avait no clue, comme non. On dit.
T'as un bon point, Jean-Nic. Il n'y a aucune direction avec les Rams côté porteur de ballon. C'est un groupe très spécial cette année parce qu'il y a eu tout l'épisode avec Cam Akers, oublie pas. Il veut être échangé, on va l'échanger, oui, c'est sûr, on va y trouver une nouvelle équipe. Finalement, on trouve pas une nouvelle équipe, il revient. Darrell Anderson, pendant ce temps-là, assure la relève. Finalement, on le coupe. Est-ce que c'est pour aller chercher Melvin Gordon? Je pense pas. Il gagne quand même un bon salaire pour un gars qui échappe beaucoup trop le ballon cette année. Ce qui est spécial, c'est le timing de libérer Anderson à ce moment-là. T'sais, il a amorcé 28 matchs dans la dernière saison. Il avait pas mal le ballon depuis le début de la saison, mais 4 snaps la semaine passée, dont seulement 2 courses. Est-ce que c'est lui qui a dit à Sean McVay, écoute, là, moi j'en ai assez, je veux une opportunité ailleurs? L'autre facteur qui peut rentrer en ligne de compte, c'est que les Rams aiment beaucoup leur choix de 5e ronde au dernier repêchage, Kyren Williams. Il a pas fait grand-chose à date. Il a été blessé pas mal depuis le début de l'année. Il vient de revenir au jeu depuis 2 semaines, je pense. C'est tranquille, mais c'est un joueur que Sean McVay avait beaucoup, beaucoup apprécié au camp d'entraînement. Donc, peut-être que ça rentre en ligne de compte.
Olivier Paquin, sans doute un propriétaire de DeAndre Swift dans son pool fantasy, nous dit « Pourquoi DeAndre Swift n'a que quelques courses par match depuis son retour? »
Ben, c'est sûr qu'il est beaucoup plus explosif que Jamal Williams, qui a à peu près tous les touchés des Lions au sol. Sauf que il a dit lui-même dans les derniers jours qu'il sera pas remis à 100% cette saison de blessures qu'il a subies en début d'année à l'épaule et à la cheville. T'sais, on le sait, il avait connu un super début de saison. Après ça, il s'est blessé. Puis malheureusement, dans le cas de Swift, ben, c'est l'histoire de sa carrière dans la NFL jusqu'à maintenant. Il y a eu des bobos. T'sais, c'est pas toujours des blessures qui l'empêchent de jouer, mais qui l'empêchent d'être à 100%, comme en ce moment. Il l'a dit lui-même, là, c'est pas le coach qui essaie de l'inventer. Donc, je pense que c'est ce qui lui nuit puis ce qui fait qu'il n'y a pas plus d'opportunités en ce moment.
Ouais, même Dan Campbell avait dit lors de son match de retour qu'il lui avait fait faire une course de trop. Peut-être laisser entendre qu'il s'était un petit peu reblessé ou en tout cas qu'il avait aggravé une blessure. Donc, c'est clairement un enjeu de santé. Pierre Turgeon, pas l'ancien joueur d'hockey.
Ouais, c'est ça que je me demandais. Là. Je me disais, on a des fans célèbres.
Non, je pense même que c'est une ancienne, c'est une célébrité, d'après moi, c'est le même Pierre Turgeon dont je pense connaître l'identité. Il pose la question, pourquoi, depuis toujours, je n'ai jamais été capable d'aimer les Vikings? Je sais pas si toi, tu vas pouvoir répondre à cette question-là, tu es en conflit d'intérêt. Ben, et vont-ils se remettre de la leçon donnée par Dallas?
Ouais, je me pose la même question. Est-ce qu'ils vont s'en remettre? Mais pour ce qui est de pourquoi Pierre n'a jamais été capable d'aimer les Vikings, je vais répondre moi comme partisan. Là. Parce que c'est dur d'aimer les Vikings, tout simplement. Tu sais, c'est cruel être fan des Vikings. Ça fait mal, c'est pas facile. C'est une histoire perpétuelle de déchirement, de douleur, parce que ils perdent dans des moments très difficiles, des matchs incompréhensibles. Il y en a un puis un autre, là. Donc, des matchs comme ça au fil de l'histoire que les Vikings ont échappé, là, dans des moments vraiment critiques, des finales de conférence. Ils ont perdu 4 fois au Super Bowl. Donc, peut-être qu'il y en a qui se disent, bah, finalement, c'est un club de losers. Moi, écoute, je te dirais que les Vikings, par contre, c'est le fun de les suivre. Ils sont toujours compétitifs. C'est rare, là, une saison des Vikings que tu vas te dire, dès le début de l'année, ils sont pas dedans, ils finissent 3-14, puis ils sont vraiment, vraiment là, dans le coup pour le tout premier choix. C'est peut-être ça qu'il va falloir qu'ils se produisent un jour, là, remarque, pour que la franchise ait un vrai tournant. Mais d'un autre côté, comme partisan, t'es toujours dans le coup, t'es toujours stimulé parce qu'ils sont bons. C'est juste qu'on a hâte qu'il passe à un autre niveau, qu'il soit vraiment là au niveau de l'excellence de la Ligue, puis c'est pas arrivé là dernièrement.
Éric Duguay pose une question, je pense que ça s'adresse un peu aussi aux gens qui font du fantasy, mais même à ça, là, même pour les partisans des 49ers, parce qu'on voit un peu l'émergence de, je vais pas mal prononcer son nom, mais c'est Brandon Ayuk, là.
Ouais.
Est-ce que il est en train de prendre le poste de numéro un face à Samuel ou tu vois que les deux ont chacun son complémentaire?
Non, les deux, ils se complètent très bien. Tu sais, Deebo Samuel, c'est monsieur après l'attraper. C'est aussi le gars qui va te donner quelques courses électrisantes du champ arrière ou de n'importe où sur le terrain, là, de toute façon. Donc, ça va être plus, pour moi, je le vois comme le gars qui va être capable de transformer un gain de potentiel de 3 verges en gain de 18, 20, 25 verges là, par son habilité avec le ballon entre les mains. Ayuk va peut-être être meilleur en profondeur, va peut-être amener un peu plus une menace verticale. Donc, moi, pour moi, c'est un duo intéressant. Ayuk se développe peut-être pas aussi bien qu'on l'espérait là, du côté des Niners, mais regarde, deux touchés quand même lundi soir dernier contre les Cards. Il est capable de servir la cause de cette équipe-là. Donc, non, c'est deux forces, je pense, qui se complètent très bien.
Jérôme Tremblay nous pose une autre question. Il nous a écrit sur le site Nos précieux conseils fantasy, sur lequel je vous invite à aller vous inscrire si vous ne l'êtes pas déjà. Donc, Jérôme Tremblay qui nous dit « Quel est le niveau d'impact dans un vestiaire sur l'attitude et le non-verbal de Aaron Rodgers, alors qu'on comprend que son ego est quasiment rendu plus gros que le logo des Packers? »
Ouais, ça c'est dur à dire. Aaron Rodgers, d'une façon, est très respecté là par les Packers, par les joueurs, par ses accomplissements. Tu sais, veut pas. Le gars impose le respect par sa façon qu'il a joué depuis tant d'années. D'un autre côté, ça doit être difficile en ce moment de se faire constamment lancer des flèches. Le Rodgers qui a dit souvent que les receveurs devaient en faire plus, que tel joueur devait en faire plus. Et lui, cette année, ben c'est pas sa meilleure année. Je te dis pas qu'il est pourri. Mais il y a quand même des ratés. Le dernier match, entre autres, là, des Packers contre les Titans, jeudi dernier, il a raté lui-même des receveurs ouverts, des passes d'un pied, des passes par-dessus la tête. T'sais, c'est pas dans ses habitudes. On est habitué à Aaron Rodgers, c'est la précision chirurgicale, mais c'est pas ça cette année. Donc, peut-être que pour des coéquipiers, ça peut devenir dérangeant de se faire pointer du doigt en se disant « Ben, notre leader, qui lui est supposé de nous élever à un autre niveau, le fait pas nécessairement. » Puis, ouais. Tu sais, c'est souvent des controverses à gauche, à droite. T'sais, il est beaucoup plus controversé qu'il l'était. Aaron Rodgers, il attire l'attention, pas toujours pour les bonnes raisons. Fait que ça peut devenir dérangeant, effectivement, dans un vestiaire.
En tout cas, bonne chance pour les Packers cette semaine, qui affrontent quand même une bonne équipe. On va voir comment ça va se terminer. On va en parler tout à l'heure dans les prédictions. Deux dernières questions, justement, avant d'aller aux prédictions, Steph. D'abord, Olivier Boudreau qui nous pose la question, c'est son premier essai pour une question. Alors, on remercie Olivier de nous poser une question, puis on va l'inviter à en poser d'autres. Et pour une organisation perdante et pauvre en histoire comme les Lions de Détroit, pourquoi ils se retrouvent à chaque année en prime time à Thanksgiving?
Excellente question. Ça m'a été demandé quelquefois, ça, puis j'en suis venu même à me dire « Hey, ça serait intéressant un jour que je fasse une chronique dans le journal là-dessus, parce que ben du monde se dit « Pourquoi faut toujours se taper Détroit au Thanksgiving? » Donc, bonne question. C'est une vieille tradition, en fait, puis ça a parti au départ, les Lions étaient les Spartans de Portsmouth. Ils sont déménagés à Détroit, c'est un propriétaire de l'époque là, qui avait déménagé le club à Détroit. Et puis, lui, il avait de la misère un peu à vendre des billets, à attirer les fans. Puis, comme idée marketing, il s'était dit, tiens, ça serait le fun de convaincre les diffuseurs radio à l'époque de présenter le match du Thanksgiving. Là. Puis, écoute, c'était... lui, il était propriétaire d'une station dans un groupe. Je me demande si c'était pas le groupe NBC, je pense. Puis il avait convaincu le réseau de diffuser ça à la grandeur du pays dans 94 stations. Ça avait marché à fond. Puis c'est vite devenu une institution, les Lions à Thanksgiving. C'est une tradition qui perdure depuis. Puis maintenant, même s'ils sont ordinaires, disons-le poliment, depuis plusieurs décennies, ben tu sais, ça serait un peu mal vu là, de la part de la NFL de retirer soudainement cette tradition-là.
Alors que c'était leur idée, là.
Ouais, c'est ça. C'est un peu eux autres qui ont lancé peut-être pas le Thanksgiving avec les matchs de foot, mais qui ont lancé l'idée de le marketer, là, si on veut, en bon français, qui en ont fait un peu un événement.
Et notre section questions des auditeurs ne serait pas complète sans Robin qui pose question cette semaine. Croyez-vous que tous les terrains de la NFL seront en gazon naturel avant longtemps? Il y aura un mouvement des joueurs à cet effet, compte tenu des blessures constantes, et on sait qu'au soccer, ben, il n'y en a pas de synthétique.
Ouais, j'ai vu qu'il y a un rapport là, qui est sorti dernièrement à l'effet que, effectivement, le nombre de blessures serait un peu plus grand sur des terrains synthétiques. Pas une marge là à faire capoter, mais quand même, il y aurait une différence. Puis il y a un mouvement, là, semble-t-il, du côté de l'association des joueurs. On se pose de plus en plus de questions par rapport à ça. La NFL a l'air plus lente à réagir parce que c'est évident que quand tu demandes aux propriétaires d'équipe, qui sont tous, c'est connu, très pauvres, d'investir sur des nouvelles surfaces de jeu puis de les entretenir et tout ce que, qui vient avec des surfaces
ben,
naturelles.
Moi, je te challengerais là-dessus. Là. Les propriétaires sont pas si pauvres.
J'espère que tu avais compris l'ironie, Jean-Nic. Mais... bon, c'est bien que tu le précises, parce qu'il y en a peut-être qui se disaient, voyons, est-ce qu'il s'en va, lui, sont pas pauvres, les propriétaires. Mais bon, tout ça pour dire que ça demande de l'entretien, des investissements. Est-ce qu'ils vont aller dans cette voie-là? Peut-être s'il y a beaucoup de pression de la part des joueurs, mais pour l'instant, ça semble pas un combat que la Ligue semble prête à mener. C'est long, des fois, à venir les changements, mais quand on commence à en parler, c'est souvent signe qu'il va se produire quelque chose dans un avenir à plus ou moins long terme.
Merci à tous d'avoir participé encore une fois à cette section des questions sur les auditeurs. Vous savez que vous pouvez nous interpeller sur les médias sociaux en tout temps. Vous pouvez aussi faire partie du groupe Facebook Nos précieux conseils fantasy où vous pouvez adresser la question à notre expert Stéphane Cadorette. Sinon, ben, vous pouvez toujours nous écrire aussi à notre adresse courriel qui est
la zone payante à quebecormedia.com. Puis je veux juste dire, vous avez été particulièrement nombreux cette semaine. Ça a été notre plus grosse semaine en frais de questions. Je sais qu'on n'a pas répondu à tout, faute de temps, parce qu'on veut pas que le podcast s'étire sur 2h30. Mais il y a des questions intemporelles là-dedans, Jean-Nic, qu'on garde dans notre petite poche arrière, puis qu'on va ramener là, la semaine prochaine.
16 matchs cette semaine, aucune équipe en baisse, la Thanksgiving, on en parle après la pause, c'est l'heure des prédictions, bougez pas.